VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
16h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Conflit en Syrie, un bombardement aérien de la coalition dirigée par Washington a fait ce vendredi à l'aube au moins 80 morts, dont 33 enfants parmi les familles des combattants du groupe djihadiste État islamique dans la ville de Mayadine, dans l'est du pays. Selon les sources médicales et civiles de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'ONDH, à Mayadine, ces familles étaient réfugiées dans le bâtiment de la municipalité de cette ville, contrôlée par l'État islamique et proche de la frontière irakienne. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté aujourd'hui les forces aériennes de tous les États intervenant en Syrie à mieux distinguer les civils des cibles militaires, soulignant que les djihadistes sont mêlés à la population et les empêchent de fuir. Les raids aériens visant le groupe État islamique ont tué des centaines de civils en Syrie depuis 2014. En Tunisie, ouverture ce vendredi à Tunis, du procès des 26 personnes inculpées dans le cadre de l'attentat de Sousse, qui a fait 38 morts en 2015, dont 30 touristes britanniques. 20 des prévenus sont accusés notamment de crimes terroristes, homicides et complots contre la sûreté de l'État. Les 6 autres sont des membres des forces de sécurité inculpés de non-assistance à personne en danger. Rappelons que le 26 juin 2015 à Port El-Kantaoui, près de Sousse, dans l'est du pays, un étudiant tunisien armé d'une Kalachnikov avait attaqué des touristes sur la plage, abattant une dizaine de personnes avant de pénétrer dans le complexe de l'hôtel impérial Maraba, où il avait continué à tirer. Au total, 38 personnes ont péri dans cet attentat revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Et puis en Égypte, au moins 26 personnes tuées ce vendredi dans l'attaque par des hommes armés d'un bus transportant des chrétiens dans la province de Minya, au sud du Caire. C'est ce qu'annonce la télévision nationale et des responsables. L'attaque a lieu un mois et demi après les attentats contre deux églises coptes qui ont fait 45 morts et avaient été revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. En Libye, de violents affrontements opposent des groupes armés rivaux ce vendredi au sud de Tripoli, la capitale. On y entend des explosions et des tirs d'artillerie, selon l'AFP. Les combats ont commencé à l'aube dans les quartiers d'Abou Slim, Adba et Salahidine, où des chars ont été déployés. Plusieurs groupes hostiles au GNA, le gouvernement d'Union nationale, revendiquent sur leur page Facebook des attaques contre les forces loyales à cet exécutif soutenu par la communauté internationale. La capitale libyenne, en proie à une insécurité chronique depuis la chute du dictateur Muammar Kadhafi en 2011, est sous la coupe de dizaines de milices. Et puis au Burundi, les couples burundais vivant en union libre ou en concubinage subissent de fortes pressions et ont jusqu'à la fin 2017 pour légaliser leurs relations. Cette annonce du ministère burundais de l'Intérieur ce vendredi fait suite au mot d'ordre lancé le 1er mai par le président Pierre Nkurunziza en faveur d'une campagne de moralisation de la société. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique Terence Ntairadja, il y a des mariages illégaux, des grossesses de centaines de filles dans les écoles et des cas de deuxième ou de troisième femmes qui ne sont pas reconnues par la loi. Ce qui a conduit le chef de l'État à préconiser qu'au 31 décembre 2017, au plus tard, tous les ménages du Burundi soient légalisés pour protéger surtout les femmes et les enfants, a souligné Terence Ntairadja. Et toujours au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a nommé une équipe chargée de réviser la Constitution. Certains articles, comme la limitation des mandats présidentiels, risquent de disparaître. L'opposition burundaise affirme pour sa part que le parti CNDD au pouvoir veut la suppression des accords de paix d'Arusha conclus en 2000 en Tanzanie. Le point avec Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Pascal Nguendakuriyo est à la tête d'une commission de 15 personnes qui viennent d'horizons politiques divers, de différentes religions et ethnies. Il a la lourde mission de pouvoir présenter au mois de septembre ou avant la fin de cette année au président burundais un rapport qui précise bien les articles à modifier dans la constitution actuelle, y compris l'article concernant les mandats présidentiels. Pour le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, cette idée de revisiter la constitution n'est pas nouvelle. Une commission technique a été mise sur pied dernièrement par le numéro 1 Burundais, il est déjà à pied d'œuvre. Évariste Ndayishimiye.
Il y a des procédures pour amender la constitution. Il y a eu des idées qui sont venues de beaucoup de citoyens burundais qui demandent qu'il y ait amendement de la constitution. C'est là même où on a commencé à parler de questions de mandat. Il y a une commission technique qui va étudier techniquement comment mettre en œuvre ces recommandations. Mais dans la feuille de route de Kayanza, les partis politiques avaient prévu la révision de la constitution parce qu'il y a toujours des lacunes. Ce sont les membres de la commission technique qui étudient la gestion des institutions qui étaient en place.
Pour le parti de l'indépendance, il prône Union pour le progrès national. La révision de la constitution burundaise ne peut pas intervenir au moment où les parties prenantes sont aujourd'hui en pourparlers. Tassien Sibomana.
Un parlement futur légal et légitime ne peut pas se targuer d'avoir la compétence de réviser la constitution. Et cet accord est pour nous un pacte social entre Burundais qu'il ne faut pas changer sur l'initiative de tout venant. La deuxième raison, c'est que l'article 299 est clair. Aucune procédure de révision n'est envisageable quand elle peut porter atteinte à la cohésion nationale, au principe de la démocratie.
Président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, estime que le parti présidentiel CNDD-FDD veut enterrer une fois pour toutes tous les accords de paix et de réconciliation d'Arusha. Zénon Nicharenzi.
Le Parena n'a jamais contesté le principe même de la révision de la constitution seulement. Comme il y a un dialogue à Arusha, il faut que cette constitution soit changée dans l'esprit et les conclusions des accords d'Arusha. Si on met une commission avant les conclusions d'Arusha, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, Souleymane Kamagaté, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, convoqué ce vendredi par la gendarmerie pour être entendu sur la découverte le 15 mai d'une cache d'armes à Bouaké, épicentre des mutineries de soldats. Cette convocation intervient après la découverte à la mi-mai d'une importante cache d'armes dans un domicile appartenant à M. Kamagaté. Le président Donald Trump est à Taormina, en Sicile, pour le sommet du G7. Le chef de l'exécutif américain doit y rencontrer les leaders des grandes démocraties industrielles et les dirigeants de pays en développement comme le Nigeria et le Niger qui y ont été invités. Hier, Donald Trump a effectué sa première visite à Bruxelles, la capitale européenne. Il a appelé l'OTAN à se concentrer sur le terrorisme et les menaces de la Russie. Et il a aussi renouvelé son appel au respect des engagements financiers de tous les États membres de l'Alliance Atlantique. Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales, nous parle des enjeux de cet engagement.
Durant la campagne électorale qui a vu la victoire de Donald Trump, on a très bien senti que Trump se recentrerait prioritairement en interne, donc les États-Unis d'abord. Et c'est pour cette raison qu'il a tenu un discours quasiment de banquier vis-à-vis de ses homologues de l'OTAN, en leur expliquant la nécessité de mettre la main à la poche, puisqu'il y a des pays qui ont failli à leurs obligations de cotisation. Donc ce n'est pas du tout une surprise. Trump, en fait, est en train de distiller simplement son point de vue sur le fond d'une telle institution. Et en bonhomme d'affaires, son problème se résume essentiellement au nerf de la guerre, c'est-à-dire à l'argent que chacun doit impérativement dépenser pour justifier l'existence d'une institution qui ne survivra que si sa capacité d'action est renforcée. Et pour cette raison, je pense qu'il n'y a aucune surprise de sa part. Trump est un pragmatique. Maintenant, il aura tout le temps, bien évidemment, de se ressaisir puisque le temps de la campagne électorale étant terminé, il est maintenant confronté à la réalité.
Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales. Et pour terminer, ici aux États-Unis, la justice a confirmé hier en appel la suspension du décret anti-immigration du président Donald Trump. Les détails avec Rosine Munezero.
Le Congrès a accordé au président le pouvoir d'interdire l'entrée des étrangers aux États-Unis, mais ce pouvoir n'est pas absolu selon le juge Roger Gregory, président de la Cour d'appel de Richmond, capitale de la Virginie. Dès que le verdict est tombé, Omar Jadwat, avocat opposé au décret présidentiel, a écrit sur Twitter « Nous avons gagné ». La Constitution des États-Unis interdit la discrimination religieuse. Les opposants au décret avaient plaidé le 8 mai devant la Cour d'appel fédérale de Richmond que M. Trump avait volontairement visé les musulmans dans son décret, violant ainsi la Constitution. Le fameux décret ainsi que sa deuxième mouture avaient été bloqués en février et mars par les tribunaux. Deux suspensions dénoncées par Donald Trump comme symptomatiques d'une justice politisée. Maintenant, il ne reste à son administration que le recours à la Cour suprême.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.